Voici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe sur France 24 et RFI avec une actualité particulièrement chargée cette semaine où l'on s'intéresse au Brexit, à l'état de droit de nos démocraties, aux prochaines élections européennes en mai 2019. Et nous avons le plaisir pour cela de recevoir la ministre en charge des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, bonjour.
Bonjour. Alors, vous avez d'abord effectué une grande carrière de diplomate. Vous avez été en poste au Sénégal, au Maroc, aux États-Unis en 2003, au moment de la guerre en Irak. Et donc, depuis un peu plus d'un an, ministre délégué aux Affaires européennes, avec des dossiers sensibles à gérer, celui des migrations, celui du Brexit. La presse britannique, qui vous aime bien, vous a surnommé l'arme secrète du président Macron. Vous étiez récemment au Royaume-Uni, où votre discours cache à séduit nos confrères. Et puis en France, vous êtes investi dans les consultations citoyennes organisées à l'initiative du président Macron pour mieux connaître les attentes des citoyens. Ces rendez-vous ont lieu quasiment dans toute l'Europe et vous y participez donc volontiers.
Alors on commence par l'Italie, si vous le voulez bien, tout simplement parce qu'on a eu quelques sueurs froides avec une présentation d'un budget qui ne convenait ni à la Commission ni à aucune des institutions. Et puis finalement, mercredi, le gouvernement italien a baissé sa prévision de déficit public. L'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro avec 130% de PIB de dette. Et on a frôlé vraiment une nouvelle crise de la zone euro.
Alors, on n'a pas intérêt à avoir une nouvelle crise de la zone euro. Nous avons besoin d'une Italie forte et les Italiens ont besoin d'un euro fort et d'une zone euro forte. Donc, on doit travailler ensemble. On a parti lié, nos intérêts sont les mêmes. Je ne vais pas donner des leçons sur l'ampleur du déficit. Parce que pendant des années, la France a été un mauvais élève de l'Europe, a oublié ses engagements sur un déficit en dessous de 3%. C'est depuis l'année dernière que nous tenons ces engagements, que nous pensons aux générations futures et que nous avons retrouvé notre crédibilité en Europe. Mais ça n'est pas à la France de montrer du doigt un autre État membre de l'Union européenne.
Alors, il y a un autre dossier où ce gouvernement, cet attelage populiste, essaie de faire entendre sa différence, c'est celui des migrations. Les Italiens refusent de débarquer des réfugiés. L'Aquarius, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, n'a plus le droit de naviguer. Alors, finalement, les populistes, ils donnent des gages à leur électorat et puis comme ça aussi, ils réussissent à faire plier toute l'Europe.
La question qu'on traite depuis juin, c'est-à-dire comment faire en sorte que des bateaux d'ONG puissent débarquer en Europe les personnes qu'ils ont sauvées de la noyade, parce que c'est ça dont on parle. Cette question se pose uniquement parce que, en effet, un pays, l'Italie, a refusé d'ouvrir ses ports pour la première fois. L'Europe a été au rendez-vous. Depuis juin, à chaque fois que la question s'est posée, les progressistes européens, les humanistes européens se sont concertés et ont toujours trouvé des solutions coopératives européennes.
Et donc leur chantage a marché, finalement. Ils ont demandé de la solidarité, l'ont obtenu. Et c'est ce qu'ils vont dire à leurs électeurs?
C'est peut-être ce qu'ils diraient à leurs électeurs. Moi, je dirais plutôt qu'ils ont fermé les yeux quand des gens risquaient de se noyer. On ne peut pas remplacer le droit international, on ne peut pas remplacer le droit de la mer par la loi de la jungle en Méditerranée. Ils ont surtout fait beaucoup de bruit à un moment où il y avait très peu d'arrivées vers l'Italie depuis les côtes libyennes. Et il y en a 10 fois moins que l'année dernière. Pendant ce temps, il y a davantage d'arrivées en Espagne et l'Espagne a une approche tout à fait différente. On doit de la solidarité aux pays qui, par leur géographie, sont les pays qui accueillent les premiers, les migrants et les demandeurs d'asile. Cette solidarité, on l'a proposée au mois de juin, au Conseil européen. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est qui cherche des solutions et qui, à l'inverse, cherche des coupables ou cherche à vivre électoralement des problèmes.
Alors, il y en a d'autres qui posent problème en Europe. La Pologne, la Hongrie et la Roumanie inquiètent l'exécutif européen sur la question de leur dérive autocratique. Le gouvernement donc en Roumanie prépare une réforme remettant en cause l'indépendance de la justice et les politiques pourraient échapper aux poursuites pour corruption. Est-ce que c'est là aussi un signe de ce fossé grandissant que vous décrivez entre populistes et progressiste.
Je pense qu'il faut avoir les yeux grands ouverts sur ce qui se passe dans l'Union européenne aujourd'hui. Trop longtemps, on a regardé ailleurs. Trop longtemps, un certain nombre de gouvernements ou de partis politiques se sont dit qu'il était plus simple de ne pas nommer le problème et de ne pas le combattre. En ne le combattant pas, on l'a laissé grandir. C'est ce qui s'est passé en Hongrie depuis plus de 10 ans. Il y a des dérives en matière d'état de droit. Ça veut dire de liberté publique, ça veut dire de pluralisme de la presse, ça veut dire de statut des ONG. C'est pas des éléments négligeables. En Roumanie aujourd'hui, il y a une préoccupation forte autour de la réalité de la lutte contre la corruption. Ce sont des vraies préoccupations. Il faut les regarder en face, il faut les nommer. Moi, je n'accepte pas ceux qui disent Emmanuel Macron installe un clivage entre progressistes et nationalistes. Ça, il ne l'installe pas, il est là.
On va en reparler de ce clivage, mais il faut combattre, c'est bien, il faut les nommer, mais il faut aussi avoir les moyens de combattre ces pays. Et on s'aperçoit que la procédure qui existe, le recours à l'article 7, qui prive du droit de vote les mauvais élèves, eh bien, il est impossible à mettre en œuvre, puisqu'il faut l'unanimité.
Non, il est mis en œuvre sur la Pologne. Les auditions de la Pologne au Conseil des ministres des Affaires européennes ont lieu depuis plusieurs mois maintenant. La difficulté consiste à aboutir à priver du droit de vote. L'objectif, c'est pas d'aboutir à la sanction. L'objectif, c'est que le dialogue porte ses fruits.
Et c'est le cas en Pologne ?
Pas pour le moment, mais il est important que la Pologne entende la préoccupation des Européens. Ça n'est pas, comme ça a été décrit parfois, l'idée fixe de fonctionnaires de Bruxelles. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement du reste de l'Union européenne qui considèrent qu'il y a une difficulté. Alors vous avez raison, cet article 7 du traité de Lisbonne, il a été conçu sans que ceux qui l'ont écrit n'imaginent qu'il y ait ce genre de dérive à l'intérieur de l'Union européenne. Donc il est insuffisant. C'est la raison pour laquelle nous soutenons la proposition qui est faite pour le prochain budget européen par la Commission de conditionner le versement des fonds européens au respect de l'état de
droit. Là encore, il y a des pays qui ne vont pas voter pour. Hein. Ce sont les mauvais élèves. La coalition des mauvais élèves, c'est quand même quelque chose de fort maintenant. Hein.
Mais cette conditionnalité, elle doit s'appliquer à tous. On doit être capable de faire, par exemple, une revue par les pairs, et on ne doit pas craindre d'être montré du doigt s'il y a une dérive qui ne convient pas. C'est pas une question de l'Ouest contre l'Est ou quoi que ce soit. C'est le socle de l'Union européenne, ce sont des valeurs partagées. Et comment voulez-vous que demain on ait une coopération en matière judiciaire avec un pays qui ne respecterait plus l'indépendance de sa justice?
Alors, on a commencé à ébaucher cette idée d'un clivage progressiste versus populiste sur lequel insiste Emmanuel Macron quand même dans la perspective de la campagne des futures élections européennes en mai prochain. Une lecture qui n'est pas particulièrement du goût des conservateurs français, ni même peut-être des conservateurs allemands. Est-ce que ça ne va pas tendre les relations avec la chancelière ?
Oh, je ne pense pas, parce que la chancelière, comme d'autres conservateurs en Europe, a été favorable, par exemple, au vote du Parlement européen, mettant en lumière les violations de l'état de droit en Hongrie. Même quelqu'un comme le chancelier autrichien Sebastian Kurz a dit très clairement qu'il était favorable à ce que on s'inquiète de l'état de droit en Hongrie. Mais vous avez raison, il y a des calculs politiciens de certains au sein de la droite conservatrice européenne, au sein du PPE, qui jusqu'à présent ont préféré faire masse, faire nombre, y compris sans regarder ce que certains de leurs alliés dans le même groupe appuyaient comme dérive de l'état de droit. Nous nous disons que on ne peut pas fermer les yeux et qu'il est étrange de voir dans le même groupe politique au Parlement européen des progressistes sincères et des gens qui aujourd'hui, sous couvert de démocratie illibérale, combattent les libertés publiques.
Alors justement, Monsieur Orban, pour bien préciser, démocratie libérale, c'est Viktor Orban.
Au sein du Parti populaire européen, on a l'Allemand Manfred Weber qui est candidat, candidat à l'Allemagne comme tête de liste, c'est lui qui a voulu maintenir Viktor Orban au sein du parti. Oui. Et puis on a un nouveau candidat qui est apparu, Alexander Stubb, l'ancien premier ministre finlandais. Alors il se dit Macron compatible. Alors est-ce que vous trouvez qu'il est sur la même ligne que le président français ? Est-ce que la Paris pourrait faire avec une droite moins dure ?
C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, quand on candidate aux plus hautes fonctions dans l'Union européenne, on se dépêche de dire qu'on est Macron compatible. Et ça vient de certains au PPE comme de certains ailleurs. Et c'est vrai que quand on est une ministre en marche, comme je le suis, on est assailli de messages, de coups de fil. Il y a des bébés Macron partout en Europe. Ça veut dire quelque chose. Ça veut
Mais
dire
pas encore
que...
de parti au service des idées portées par le président français.
Ah ben, nous ne sommes pas des sortants au Parlement européen, ça c'est une évidence, c'est aussi une richesse, et en même temps, nous avons aussi le bilan de la présidence d'Emmanuel Macron depuis plus d'un an, de ce qui s'est passé depuis le discours de la Sorbonne qui s'est tenu il y a un tout petit peu plus d'un an, 49 propositions concrètes, dont plus de la moitié sont en cours de mise en œuvre.
Alors, vous voulez créer un nouveau parti européen, c'est ça l'idée, en fait, avec qui à sa tête, comment vous allez aller aux européennes, c'est pas très clair. Et puis, on n'a pas non plus de nom, hein, tête de liste. Certains vous prêtent d'ailleurs la volonté d'être tête de liste nationale.
Bon, bah, écoutez, tout le monde réfléchit à l'envers. La première étape, c'est de savoir qui partage nos valeurs dans l'Union européenne. Vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a une inquiétude, il y a un moment historique dans l'Union européenne, qui est de se demander si on continue à la consolider ou si on laisse certains la détruire. Ça n'est pas un petit enjeu. Donc nous voulons faire route avec
ceux... Donc faire un nouveau parti, première question.
Non, ça n'est pas faire un nouveau parti, c'est faire route avec ceux dans des partis divers à travers l'Union européenne qui considèrent qu'il y a cet enjeu historique. Nous sommes en train de préparer une charte que nous avons envie de proposer à
un
certain
nombre...
Avec
les gens de Tsipras, des libéraux belges, un peu un mélange de tout.
Alors,
ça.
Alors, vous avez vu la semaine dernière une tribune dans Libération signée par Christophe Castaner pour La République En Marche et par six autres partenaires possibles européens qui disent clairement que nous avons les mêmes inquiétudes et que nous partageons les mêmes valeurs. Ça peut être le cas d'autres. Et puis, ensuite, construire la plateforme de la majorité présidentielle pour la liste que nous allons présenter. Cela aussi est en cours. Et puis, il y aura, au-delà de La République En Marche, d'autres sensibilités qui auront envie en France de se présenter
avec
nous.
Donc, vous ne voulez pas vous présenter comme tête de liste aux européennes ?
La tête de liste, ça viendra après.
On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. L'autre grand sujet qui tient toute l'Europe en alerte, eh bien, c'est celui du Brexit. Bousculé sur ce divorce, Theresa May est finalement sortie renforcée du congrès du Parti conservateur qui a eu lieu cette semaine à Birmingham. La première ministre britannique a proposé un libéralisme réformée et puis elle a aussi proposé un début de vision des relations futures entre le Royaume-Uni et l'Europe. Retour sur ce congrès de tous les dangers avec Noémie Roche.
Dans le palais des congrès de Birmingham, c'est une Theresa May visiblement en forme qui s'installe à la tribune, allant même jusqu'à faire de l'humour.
Avant tout, il faudra m'excuser si je tousse pendant ce discours. J'ai passé toute la nuit à mettre de la super glue partout sur le fond derrière moi.
Une manière de tourner en autodérision sa prestation calamiteuse de l'an dernier. Theresa May avait alors été interrompue par de violentes quintes de toux, alors que des lettres formant un slogan derrière elle s'étaient décrochées. Cette fois-ci, la première ministre britannique a pris un ton optimiste, mais ferme. Theresa May a appelé son parti à se rassembler au moment où le Royaume-Uni négocie sa sortie de l'Union européenne.
Personne ne souhaite plus que moi aboutir à un bon accord. Mais cela ne veut pas dire accepter un accord à tout prix. Le Royaume-Uni partira sans accord s'il le faut. Ce sera difficile au début, mais l'ingéniosité et la résilience du peuple britannique nous aideront à surmonter ça.
Theresa May continue de défendre son plan de sortie appelé Chequers, bien qu'il ait été rejeté par les dirigeants européens. Un plan qui prévoit de maintenir une relation économique étroite entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le divorce. Mais les europhobes du parti, à commencer par l'ancien ministre Boris Johnson, estiment que ce plan ne respecte pas la volonté du peuple. eux, plaident pour une rupture franche avec l'Union européenne. Malgré la bonne ambiance dans la salle, ces quatre jours de congrès ont donc exposé au grand jour les divisions des Tories.
Alors Nathalie Loiseau, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Theresa May dispose de suffisamment de soutien au sein de son parti pour obtenir un divorce, donc négocié dès le 29 mars, la date officielle ?
Nous avons besoin d'un bon accord de retrait avec le Royaume-Uni. Il est possible, mais le temps presse aujourd'hui. On est à très peu de temps du 29 mars 2019. On est surtout à très peu de temps du moment où il faudra que l'accord soit agréé pour pouvoir être ratifié à la fois par les communes au Royaume-Uni et par le Parlement européen. Et c'est une très bonne question que de se demander pour quelle majorité et pour quel accord Theresa May peut travailler. Moi, je préfère un gouvernement britannique fort, capable d'aller vers un bon accord.
Vous avez pas on donne pas l'impression qu'on a un gouvernement britannique fort, là, en l'occurrence.
Écoutez, je n'ai pas à juger de la politique intérieure britannique. Je n'aimerais pas que les Britanniques jugent de la politique intérieure française. Mais ce que je souhaite, c'est une première ministre qui revienne avec des propositions qui nous permettent de signer un bon accord. Nous l'avons dit, il y avait dans le livre blanc qu'elle avait présenté des points intéressants, mais aussi des points qui n'étaient pas acceptables parce qu'ils mettaient en danger le fonctionnement de l'Union européenne. Le temps presse. D'autant Michel Barnier est déterminé à aboutir à un bon accord. Ça veut dire pas un accord à tout prix non plus. Pas au détriment de l'Union européenne en tout cas.
Et vous, en l'occurrence, vous avez proposé cette semaine des solutions pour préparer le fameux Brexit du chaos, en fait. Un no deal, en fait, pour la France. Il faudra prendre toute une série d'ordonnances un peu difficiles pour parer au plus urgent. Vous ne croyez plus à un divorce à l'amiable ? Est-ce que le scénario du no deal se précise pour vous aussi ?
Ma responsabilité, celle du gouvernement, c'est d'être prête pour tous les scénarios. Le scénario d'un bon accord, c'est celui qu'on privilégie, c'est celui sur lequel on met toute notre énergie. Mais on ne va pas dire à nos concitoyens, on ne va pas dire à nos entreprises, on ne va pas dire aux Britanniques qui résident sur notre sol qu'il n'y a pas d'accord et qu'on n'était pas prêts. Et on ne va pas laisser le chaos s'installer. Donc le principe de ces ordonnances que j'ai présentées en Conseil des ministres, c'est précisément d'éviter le chaos, de faire en sorte que pour des Français qui rentrent du Royaume-Uni, leur carrière, leur diplôme au Royaume-Uni soit pleinement pris en compte, même s'il n'y a pas d'accord, de faire en sorte que les Britanniques qui résident sur notre sol ne deviennent pas des sans-papiers, même s'il n'y a pas d'accord, de faire en sorte que la circulation entre le Royaume-Uni et la France, en particulier à travers le tunnel sous la Manche, soit possible le 30 mars, même s'il n'y a pas d'accord. Il n'y aura pas de chaos, mais en tout cas, il faut anticiper les mesures à prendre.
Vous avez évoqué la situation des entreprises. S'il n'y a pas d'accord, on parle beaucoup des pertes pour le Royaume-Uni. Hein. On en parle depuis le début, depuis le référendum. Beaucoup moins de celles que vont subir aussi les autres Européens. Est-ce que ça a déjà été évalué ? Est-ce qu'il y a aussi un plan pour transformer une économie qui peut-être sera moins au service des importations britanniques?
La Commission a fait une évaluation entre le livre blanc de Theresa May et une absence d'accord. Et il est tout à fait clair que le livre blanc et les propositions qu'il contient sur la relation future sont si désavantageux pour les entreprises européenne que même une absence d'accord serait moins mauvaise. Parce que ce que contient le livre blanc et la raison pour laquelle nous n'avons pas accepté de négocier dessus, ce sont des distorsions de concurrence pour les entreprises européennes par rapport aux entreprises britanniques. C'est bien pour cela que nous n'avons pas dit oui. Ça n'est pas pour être punitif vis-à-vis du Royaume-Uni, parce que ça n'a jamais été notre état d'esprit. Mais en tout cas, il est hors de question que le départ du Royaume-Uni affaiblisse l'Union européenne.
Plutôt pas d'accord qu'un très mauvais accord. Vous me dites, Nathalie Loiseau, merci d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'information sur France 24 ou bien sur Radio France Internationale.
À très bientôt à tous.